Et le thème qui m'a été donné aujourd'hui, c'était le sens chrétien de la vulnérabilité, de la souffrance. Et j'ai transformé le titre, je vais revenir sur la vulnérabilité, parce que quand on parle de souffrance, ça met en jeu notre itinéraire de foi. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous laisser guider l'espace d'une heure. Je risque de parler un tout peu plus que trois quarts d'heure, mais après compli, je resterai là et je répondrai à toutes vos questions. Mais si vous voulez m'interrompre, vous m'interrompez. J'aime l'interactivité, mais je sais parler aussi longtemps. Donc. De suivre l'itinéraire de Job dans l'Ancien Testament. Mais partons du sens chrétien de la souffrance et de la vulnérabilité. Et il m'est apparu dans le titre qu'il faut définir les termes d'abord. Parce que quand on parle de vulnérabilité, on parle de notre condition humaine. Nous sommes, par nature, limités, fragiles, altérables, mortels, et c'est ça qui constitue notre vulnérabilité. En soi, ce n'est pas encore quelque chose qui nous affecte directement, dans le sens où c'est notre état de condition de créature, vulnérable, limitée. Et dans cette vulnérabilité, ou cette vulnérabilité est parfois une force, il faut le dire, nos vulnérabilités peuvent être une force, doivent être une force, peuvent être transformées en force, mais sont parfois aussi, c'est notre vulnérabilité, le lieu de notre souffrance. Et qu'est-ce que la souffrance ? La souffrance, c'est un effet, peut-être un symptôme d'un mal qui nous affecte, que nous subissons en raison de notre vulnérabilité. Parce que nous ne sommes pas tout-puissants et immortels, des événements peuvent nous affecter douloureusement, et c'est ça la souffrance, le mal subi. Et c'est pour ça qu'en ce carême, je me suis dit, pour nous ouvrir au mystère pascal qui arrive, partons de l'existence qui est la souffrance que nous rencontrons tous, à un moment donné, plus ou moins fort, de notre existence, à cause de notre vulnérabilité. Mais la souffrance comme mal subi est toujours d'abord un scandale. Avant de vouloir y mettre un sens chrétien, et même pour pouvoir y mettre un sens chrétien, il faut affirmer que la souffrance est d'abord un scandale. Parce que sinon, on va très vite déraper dans un spiritualisme qui a marqué un certain catholicisme dans certaines époques ou dans certains milieux, où on doit choisir la souffrance pour s'unir au Christ. Mais la souffrance, elle n'est pas à choisir, elle s'impose parfois à nous. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que sinon, on est dans un discours doloriste, et vous allez comprendre que mon propos de ce soir veut nous faire sortir de ce discours doloriste sans nous épargner de l'expérience de la souffrance, dont on ne peut pas s'extraire. Donc la souffrance est d'abord un scandale. Et comme elle nous affecte chacune et chacun dans notre existence de croyant, elle pose la question de la foi et la question de Dieu. Pourquoi nous souffrons si Dieu est Dieu, créateur et providence ? Et je vous propose de lire rapidement un texte qui n'est pas biblique. Peut-être que vous connaissez la poétesse et écrivaine Marie Noël, qui est du milieu du XXe siècle. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais peu importe. Je vous lis brièvement ce texte. Pas pour nous faire pleurer, mais pour nous rassembler, nous amener dans le cœur de notre question. Et à travers ce texte, vous pouvez y mettre toutes vos expériences personnelles. Mort de petit enfant, son agonie, l'appel désespéré de ses yeux, de son souffle, après cela, regardez Dieu. En pleurant, le cœur dit oui, l'esprit se crève les yeux, se piétine et consent. Mais il y a plus loin, plus intérieurement, une âme sans âge, aussi dénuée de foi que la première bête de la terre, avant les testaments et les révélations. Un cri de mère, une chair qui hurle, parce que cette autre petite chair a été poursuivie, traquée, saisie, étranglée, sans miséricorde. Elle criait grâce, pas de grâce. Elle appelait son père, pas de père. Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? Toute expérience du mal, surtout dans son expression la plus violente, la plus arbitraire, pose la question de Dieu. Alors philosophiquement, j'ai un deuxième texte qu'on ne lira pas, mais philosophiquement, penser que Dieu est Dieu, créateur, providence, et qu'on subit le mal, c'est irréconciliable. Et dans notre existence même, il y a cette expérience, et vous prenez tous les drames, et je pense à un courant de la théologie après la Deuxième Guerre mondiale, après Auschwitz, mais on pourrait en faire dans les drames aujourd'hui, qui se posait la question, wo war Gott, où est Dieu, où était Dieu dans ce scandale? Et je crois qu'il y a des moments de notre existence où nous lui disons, où nous lui disons, où es-tu? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? A dit notre Seigneur. Donc la souffrance humaine est une question pour la foi. Où est Dieu ? Que fait Dieu quand un homme, une femme, souffre ? Alors évidemment, on peut penser à notre propre souffrance qui engendre des doutes, des révoltes et qui peuvent être une ouverture à un questionnement. On pense à la souffrance de nos proches qui nous affectent peut-être et qui nous font souffrir, qui nous fait souffrir aussi douloureusement et qui provoque incompréhension, sentiment d'injustice, révolte, qui nous fait souffrir personnellement. Donc il y a une compassion et en même temps, une passion, une souffrance personnelle, et en même temps un désir de communion et une impossibilité de rejoindre celui qui souffre dans sa souffrance. Quand on a accompagné un père, une mère, un enfant malade, gravement malade, on aimerait prendre sur soi sa souffrance. Et ce n'est pas possible. Et ça engendre une souffrance supplémentaire. Et du coup, ça nous pose la question, quelle présence pouvons-nous avoir, alors pastoralement, je dis ça à des agents pastoraux aussi, auprès des personnes souffrantes? Bon, c'est tous les questionnements qui peuvent nous habiter. Et je vous propose de ne pas convoquer de multiples textes, mais de suivre, alors un peu au pas de charge, mais je pense que je ne vais pas vous perdre, je vais faire en sorte... Et si vous êtes perdu, vous levez la main. Si tout d'un coup, ça va trop vite, vous dites là, Philippe, stop, ça va trop vite. J'essaierai de voir vos yeux, et si vos yeux s'endorment trop, je vous laisserai paisiblement dormir. Mais si je sens que vous luttez, alors j'essaierai de venir vous chercher. Donc, Job, le livre de Job, dans l'Ancien Testament, pour le lecteur de l'Antiquité, comme le lecteur moderne, il est clair que le livre de Job est un récit fictif. C'est un récit métaphorique, c'est-à-dire symbolique. Il veut signifier pour son lecteur une réalité à laquelle qui est difficile de présenter et de concevoir et de présenter rationnellement. C'est un récit métaphorique. Et ça, je le répète, c'est aussi clair pour un lecteur de l'Antiquité. Ce n'est pas seulement notre regard moderne qui nous dit les textes de l'Ancien Testament sont de toute façon métaphoriques, ce qui est vrai dans une grande part. Mais là, c'est clair pour tout le monde. Job est présenté comme le juste par excellence. Lisons le texte. J'ai pris ici la traduction liturgique, parce que d'abord elle est très bonne, et puis elle est une traduction du latin, mais en réalité, elle est très proche du grec, parce que le latin, de l'hébreu, je veux dire, parce que le latin est très proche de l'hébreu. Et puis, c'est celle que nous pouvons entendre à l'église, ça fait sens. Début du livre de Job. Il était une fois au pays d'Outz. Alors là aussi, c'est fictif, parce qu'on a beau, les archéologues, on a beau à savoir où est le pays d'Outz, c'est un pays symbolique. un homme appelé Job. Je passe sur l'étymologie de Job parce que ça nous emmènerait trop loin. Cet homme était intègre et droit, craignait Dieu. Vous voyez que ce n'est pas le nom Yahvé, ce n'est pas le nom du Dieu d'Israël, c'est le nom de la divinité Elohim, qu'on retrouve aussi partout dans l'Ancien Testament, mais voilà, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils, après il aura beaucoup plus de filles, mais sept fils, trois filles, chiffre symbolique, chiffre de la plénitude, lui était né. Il avait un troupeau de 7000 brebis. Alors bonjour, hein, 7000 brebis, même élevage intensif, ça fait beaucoup. Hein. Chiffre symbolique, plénitude, 3000 chameaux. Vous voyez le parallèle entre les fils, c'est les brebis, et les chameaux, c'est les filles. Non, mais il y a la même proportion. Excusez-moi, je vais éviter ce genre de plaisanterie parce que ça nous va perdre du temps. 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et il possédait un grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, la richesse, le poids, la gloire, ça montre la bénédiction. Il est plein de bénédictions. Il est plein de richesses. Aujourd'hui, on est plus critique avec la richesse, à raison. Mais dans la représentation de l'Ancien Testament, ça dit l'homme comblé, et non seulement comblé dans ses biens, mais comblé de sagesse. Hein, intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. Parfait. Je me réfrène. Pardon. Et pourtant, cet homme est soumis au paroxysme du mal subi. On a deux chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2, dont on va lire une partie du chapitre 1, qui montre une avalanche de souffrances, une avalanche de drames qui lui tombe dessus, autour de lui, il va perdre tout ce qu'il a, et il va devenir malade. Donc, à terme de ces deux chapitres, on voit un homme soumis au paroxysme de la souffrance physique. Il a la lèpre, il se gratte avec un tesson de bouteille sous son arbre. Psychique, un désespoir, une perte du sens. Social, il est totalement isolé. Spirituel, il s'oppose au silence de Dieu, le paroxysme de la souffrance. Et comme on écoute l'Écriture, on va lire une partie de ce premier chapitre. Je vais vous le lire. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Très intéressant. L'adversaire n'est pas un anti-Dieu, mais fait partie de la cour céleste. On est dans un récit fictif. Il fait partie de la cour céleste. Il vient avec toutes les puissances, les souverainetés, et il est soumis à Dieu. Ce qui nous fait comprendre dès le début, le mal n'échappe pas à Dieu. Il lui est soumis. Donc, la question du mal subi pose la question de Dieu. Le Seigneur lui dit, c'est Dieu qui parle à l'adversaire. D'où viens-tu ? Bon, l'adversaire répondit, de parcourir la terre et d'y rôder. Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'a pas son pareil sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Vous voyez, c'est la même phrase que celle qu'on avait vue avant. Ça veut dire que Dieu lui-même reprend les mots, le jugement qu'avait émis le narrateur. Bon, donc c'est le jugement de Dieu sur cet homme. L'adversaire riposta. Écoutez bien ça. « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni son travail, ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais, étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède, dans le deuxième chapitre, ce sera exactement la même chose, mais touche à sa vie, et je te parie qu'il te maudira en face. » Je dirai un mot sur le mot dira parce qu'il y a un grand problème théologique et textuel là-derrière, et théologique. Le Seigneur dit à l'adversaire, « Bon, tu me poses un défi, soit tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Et là, l'avalanche commence. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer, c'était les girons peut-être, hein, voilà. Et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un message arriva auprès de Job et lui dit « Les bœufs étaient en train de labourer, les ânesses étaient au pâturage, non loin de là, les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, moi seul j'en ai échappé pour te l'annoncer. » Première vague. Mais il parlait encore quand un autre survint et lui dit « Le feu du ciel est tombé, il a brûlé troupeaux, serviteurs, il les a dévorés. Moi seul, j'en ai échappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit « Trois bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux, ils les ont enlevés. Ils ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu en échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un quatrième vague dans les gencives, quand un quatrième survint et lui dit « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire. » Je suis pris par l'émotion parce que je pense à Montana, je pense à Chiètre, je pense, voilà. « Tes fils et tes filles étaient en train de boire du vin dans la maison de leur frère lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué sur la maison, ébranlée aux quatre coins. » Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, excusez-moi, et ils sont morts. Moi seul en ai échappé pour te l'annoncer. Voilà, la vague, voilà, après, dans la deuxième vague, que je ne vous lirai pas, du deuxième chapitre, survient la maladie incurable. Voilà, et on va découvrir dans les minutes qui suivent l'itinéraire de cet homme soumis au paroxysme de la souffrance, qui va lutter avec Dieu violemment, et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous de lutter avec Dieu violemment, et pourtant un homme de foi dont on va découvrir aussi l'itinéraire de foi. Et je le dis tout de suite, et vous l'avez compris, c'est pas un exemple à imiter, mais c'est une épiphanie, une manifestation d'un chemin possible de la foi à travers la souffrance absolue. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un exemple, mais si on n'a pas à l'imiter, parce qu'on ne peut pas imiter le saint, mais il peut nous inspirer dans notre contexte. On ne peut pas imiter le saint parce que son contexte n'est jamais le nôtre, et le nôtre n'est jamais le sien. Mais par contre, il peut inspirer notre chemin de foi. Je passe rapidement sur le plan du livre, mais comme ça, vous voyez que c'est scientifique et que c'est bien. On a un prologue en prose, un épilogue en prose, dont on a lu la moitié du prologue, presque. Et puis après, c'est un poème en hébreu. Un poème qui alterne la complainte de Job et des discussions, des débats avec ses amis, avec les théologiens de son temps. Attention aux théologiens, j'en suis un, mais je vous dis attention aux théologiens. Parce qu'ils peuvent parler à place de Dieu, on va voir. Ils ne doivent pas, mais ils se trouvent où ils le font. Et des complaintes, des discours d'Élieu, et puis enfin, un dialogue avec Dieu. J'en dirai quelques mots. On a lu l'ensemble, enfin, on a lu un extrait assez large du prologue. Et je vais essayer, j'ai déjà souligné certaines choses dans ma lecture, de souligner les questions centrales que suscite le prologue, qui sont les questions centrales de la question de la souffrance pour un croyant. La première, c'est pour quelles raisons croyons-nous ? Est-ce que la foi est gratuite ? Vous avez entendu l'adversaire qui dit « Est-ce pour rien que Job croit ? Tu l'as protégé, tu lui as béni, ben, c'est pour ça. Hein ? Est-ce que notre foi est gratuite ? Ou bien nous croyons en Dieu parce qu'il nous promet le salut éternel ? Parce qu'il va nous donner ce que nous lui demandons dans notre prière ? Est-ce qu'on est avec Dieu ? Et parfois on l'est, et parfois peut-être qu'on cherche à l'être, et Job le sera aussi, dans un rapport de mercantile, enfin de négociation avec Dieu. Je prie, je fais une bonne neuvaine, je vais à genoux à Notre-Dame des Marches, ou enfin je monte les dernières marches de la chapelle des Marches à genoux, et puis tu vas je critique pas la piété populaire, hein, mais ce qu'il y a là derrière peut dire nous sommes dans une négociation avec Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu pour Dieu ou on aime Dieu pour ce qu'il nous donne ? Ensuite, qu'est-ce que c'est l'acte de foi ? Quelle est l'attitude de la foi ? Pouvons-nous reconnaître l'attitude de la foi ? Et là, je dois m'attarder un peu sur bénir et maudire. Vous vous souvenez que j'ai déjà dit, Job, l'adversaire dit à Dieu, touche à tout ce qu'il a, je te promets qu'il te maudira en face. Or, si vous allez lire le texte en hébreu, ou si vous allez lire une bonne traduction qui vous dira en note le verbe qu'il y a derrière ce mot « maudire », vous découvrirez à votre stupéfaction que le verbe, c'est « bénir ». Dans tout le prologue, il arrive 4 ou 5 fois, et on en trouvera une dans la bouche de la femme de Job, le narrateur parle de « maudire Dieu » dans nos traductions, mais le vrai verbe, c'est « bénir ». Alors les exégètes, dont je suis, trouvent toutes les bonnes explications pour dire « en fait, c'est un euphémisme ». Et probablement qu'il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire dans le livre sacré « maudire Dieu ». Parce que, à côté, en plus, ce n'est même pas le nom divin. Donc là c'est pas Yahvé, hein. S'il y avait Yahvé, on pourrait dire un euphémisme, on pourrait le comprendre. Mais là, on dit maudire Dieu, mais bénir Dieu, mais le contexte nous fait comprendre qu'il faut comprendre l'inverse. C'est comme, ça arrive dans notre langage courant, quelqu'un fait une bêtise et on dit « Ouh, mais je vais le bénir hein, !» Vous avez entendu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inverse. Et là, comme on n'oserait pas écrire maudire Dieu, on écrit bénir Dieu, mais on veut dire maudit. Bon, ok. Mais ça pose une ambiguïté. Dans tout le texte, le lecteur doit lire maudire, bénir, et doit interpréter maudire. Et au début du chapitre 3, qu'on va voir après, Job maudit Dieu, effectivement. Enfin, il maudit le jour de sa naissance, mais le verbe, c'est effectivement maudire. Et là, le lecteur, tout d'un coup, il a comme une dissociation cognitive. Il dit, j'ai lu bénir jusqu'ici, et je dois comprendre maudire. Et là, je vois maudire. Est-ce que je dois comprendre maudire ou je dois comprendre bénir? Et je crois que c'est une question théologique que nous pose dans cette ambiguïté le texte de Job. Quand est-ce qu'un croyant maudit? Quand est-ce qu'un croyant bénit? Est-ce que notre manière de parler à Dieu est une bénédiction ou une malédiction? Et nous allons voir que ce n'est pas si simple que ça. Et que quand nous avons un bon discours théologique et religieux, ça peut être un blasphème et une malédiction. Alors qu'une révolte, si elle est... En fait, j'ai déjà dit toute ma conférence, vous pouvez vous endormir après. Une révolte, si elle est adressée à Dieu, dans un dialogue, dans une relation, même si ça a le contour d'une malédiction, en fait, est l'expression de la bénédiction de la foi. Voilà, endormez-vous et laissez-moi parler. Non, mais restons réveillés. Voilà, vous voyez l'enjeu qui est là. Ensuite, ça pose la question, du coup, quel est le discours sur Dieu ? Est-ce que nos discours théologiques sont une malédiction ou une bénédiction? Et on verra ça avec les amis. Est-ce que nous avons un discours sur Dieu? Ou est-ce que nous rentrons en relation avec Dieu? Tu as dit 2 mois avant, je n'ose pas prétendre que ma théologie est toujours une relation à Dieu, mais c'est ce que j'essaie de faire en moi. Mais tu as dit 2 mois avant que j'ai la conviction que la formation, et la formation ecclésiale et la formation théologique, doit impliquer une transformation de l'être. Une transformation croyante de l'être. C'est exactement ça. Si nous avons une théologie qui est un système fermé, eh bien, c'est une malédiction. Je suis contre les systèmes théologiques clos. Et parce que c'est la révélation qui nous le dit. Bref. Évidemment, c'est une question sur l'origine du mal. Et nous allons suivre donc cet itinéraire de Job qui passe, nous allons le voir dans un instant, de la fermeté de la foi, d'une foi sublime, héroïque, mais qui ne tient pas dans la durée, à un combat, une lutte avec Dieu, jusqu'à une vraie relation à Dieu, jusqu'à l'union à Dieu. J'ai mis, bon, évidemment, c'est le discours mystique, mais c'est ce qu'on trouve dans le texte. Mais vous allez voir, c'est pas un chemin linéaire. C'est un chemin qui fait qui épouse les émotions de Job et qui va dans des moments sublimes et puis après une lutte et un doute et etc. Première réaction de Job. Je vous ai dit, il y a deux chapitres dans le prologue. Et il y a deux, alors on a lu les premières vagues, les cinq premières vagues, mais il y en a ensuite. À la fin de ce premier chapitre, réaction de Job face au drame qui l'affecte. Je cite. « Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur, alors là c'est le nom du Seigneur, effectivement. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, j'ai mis le tétragramme, là c'est le nom sacré qu'on ne prononce pas, et les Juifs ne disent pas le mot Adonai, mais disent le nom, et moi je dis le Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas de péché. » Réaction sublime que nous rencontrons très souvent dans les premiers instants d'un deuil tragique. Je ne sais pas si vous avez accompagné des funérailles, ou on voit souvent des familles dans les premiers instants jusqu'à l'ensevelissement qui ont une posture, une stature, une fermeté, une souffrance, mais qui l'affrontent, quoi. C'est exactement ça. Donc, l'acceptation d'un dépouillement radical, de la fragilité, de la vulnérabilité, on revient. La prise en compte que la vie humaine n'est qu'un passage et la capacité d'identifier Dieu comme source de la souffrance qu'on éprouve, mais sans révolte, quoi. Et donc l'acceptation du malheur comme une bénédiction de Dieu. Et je crois que on dit en psychologie, mais je crois que c'est plus profond dans le chemin de la foi, qu'il y a un moment de sidération dans le deuil, par exemple, ou qui n'est pas faux, qui est juste, mais on le sait quand on accompagne plus que simplement les funérailles, mais qu'on est dans une pastorale du deuil, eh bien, avec la durée, ça change, quoi. Hein. Voilà. Première réaction de Job. Deuxième réaction de Job, après la deuxième déferlante, où tout le monde meurt autour de lui, où il devient malade, où il n'a plus rien, il y a sa femme, quand même, qui reste, qui n'a pas de nom, là, mais sa femme qui vient lui dire ceci. « Tu persistes dans ton intégrité, maudis Dieu, en fait, bénis Dieu de nouveau, hein, et meurs. » Appel au non-sens, ou appel, alors ça c'est mon interprétation, mais au fond, accepter, c'est la voix, et c'est la voix de sa femme, donc c'est l'intime le plus proche qui vient lui dire, au fond, ça ne vaut pas la peine, quoi. Ta foi qui tient, ça ne vaut pas la peine. Abandonne, maudit Dieu et meurt, le non-sens, quoi. Et lui répond, mais tu parles comme une insensée, c'est-à-dire comme une folle. Le mot, littéralement, c'est ça, comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Voilà, de nouveau, sublime réaction de Job, l'acceptation humaine libre de la souveraineté, de la liberté de Dieu. Il m'a enlevé mon fils, je ne peux que l'accepter, c'est le choix de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est faux, je suis en train de vous dire que ça n'est qu'une étape du chemin de foi. Et il y a quand même pour moi une question dans cette réaction, est-ce que c'est une résignation aveugle, insensée, ou est-ce que c'est une foi sublime? La foi sublime demeure, et la foi fragile, on le voit, risque de ne pas tenir. Et c'est ce qui se passe chez Job. À la fin du chapitre 2, il y a ses amis qui arrivent. Je vous lis le passage, et on voit la première attitude qui serait l'attitude pastorale ou l'attitude de compassion, qui est la première attitude juste et la seule qu'il faut avoir, en tout cas dans un premier temps, avec une personne souffrante. Trois amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu. Ils arrivèrent chacun de son pays, Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naaman. Je vous demanderai à la fin de la conférence si vous vous souvenez des noms. Voilà. Et ils se concertèrent pour venir le plaindre et le consoler. C'est assez beau ça, ils se concertent. Ils en discutent et disent « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voilà. Allons. De loin, levant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. La souffrance défigure. La souffrance défigure l'humanité. C'est un scandale qui défigure l'humanité. Alors, ils éclatèrent en sanglots, ils déchirèrent chacun son manteau et se projetèrent de la poussière sur la tête. C'est le signe du deuil, c'est le signe de la compassion. En fait, ils essayent de prendre sur eux la souffrance de Job. Et 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre auprès de lui. Voilà la seule et la bonne attitude auprès d'une personne souffrante. C'est de se mettre à sa hauteur autant que possible et de se taire. À la vue d'une si grande douleur, personne ne lui disait mot. Mais ils sont là, 7 jours et 7 nuits. Voilà la fidélité. Et en même temps, dans ces 7 jours et 7 nuits, s'installe en Job la durée dans la souffrance. Et cette durée dans la souffrance va être le catalyseur de sa transformation et de sa révolte. L'expérience de la souffrance qui dure fait exploser en Job la confiance en Dieu. Job maudit, dit le texte, j'ai oublié de prendre cette première phrase, maudit son jour littéralement, mais ça veut dire maudit le jour de sa naissance. Et là, on a bien le verbe maudire. C'est ici que le lecteur se dit, mais il maudit ou il bénit ? Périsse le jour qui m'a vu naître, et la nuit qui a déclaré un homme vient d'être conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbre. Ça vous rappelle quelque chose ? Qu'il soit ténèbre. La première parole de Dieu aux origines, c'est « que la lumière soit ». Job appelle ici la décréation. Et donc, en maudissant le jour de sa naissance, il maudit le Créateur. Le Créateur. Que nulle clarté ne resplendisse. On pourrait lire la suite, vous l'avez sous les yeux, vous le lirez ce soir, et j'espère que ça vous incitera à lire le livre de Job plus tard. Et donc, dans ce chapitre, on voit la malédiction de Job. Ensuite, dans les versets qui suivent, Job qui estime son statut plus dramatique que celui des morts. Dans l'Ancien Testament, le mort, ce n'est pas la disparition dans le néant, c'est non plus pas la résurrection telle que nous la pensons, nous la croyons, pas la pensons, la croyons, parce qu'on ne la pense pas beaucoup, la résurrection, bon, parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas ce que ce sera, mais on y croit. Mais la mort, c'est le lieu de la passivité totale. Le lieu de l'attente éternelle, où il ne se passe rien, il n'y a pas de relation, mais il n'y a pas de néant non plus. Et là, ce que Job dit, c'est ben, cet état-là vaut mieux que l'état dans lequel je suis et je souffre. Ensuite, il met Dieu en cause. Pourquoi, à la troisième personne, pourquoi Dieu a-t-il pris ma vie ? Et en fait, il dit sa terreur, la terreur qui le terrifie. Et là, cette révolte de Job, ce cri de Job, après ces 7 jours de souffrance, et ces 7 jours de silence avec ses amis, là, les amis qui sont des bons cathos, comme vous et moi, ne supportent pas que Job maudisse le Créateur. Ils ne le supportent pas. Et là commence un discours, un dialogue entre ces trois amis et Job, qui met en œuvre une théologie. Alors c'en est une, il y en aurait d'autres. Il y a les théologies de la théodicée qui essaient d'expliquer l'origine du mal et de la souffrance. Ici, c'est la doctrine de la rétribution temporaire, de dire la souffrance, c'est la faute du pécheur. Et si tu souffres, c'est que tu as péché. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Parce que le juste, il est récompensé à la fin. On le croit aussi, hein, quelque part. Mais est-ce que c'est... Voilà, le juste, il est récompensé à la fin. Le méchant, il est puni à la fin. On le croit aussi, ou au moins on l'espère. Et puis, de toute façon, c'est impossible pour l'homme d'être juste devant Dieu. Bah, ça, on le pense aussi. Voilà. Et sur ces trois trépieds, on bâtit une théologie pour dire, finalement, celui qui souffre, c'est sa faute. Pas de chance. Ce système, il ne tient pas. Et c'est ce que Job va essayer de faire, parce que Job va clamer son innocence tout au long du discours, mais il va continuer d'abord à chercher un coupable. Et puis, il ne tient pas parce que notre expérience montre qu'il y a des hommes justes qui sont atteints par la violence, et puis il y a des salauds qui n'ont jamais de problème. Voilà. Mais l'erreur, elle n'est pas tellement dans le type de doctrine qui est déployée, l'erreur est plus profonde. L'erreur, c'est que le système théologique que les amis mettent en œuvre parle à la place de Dieu et cherche à expliquer pour sauver Dieu. Parce qu'on ne peut pas maudire Dieu. Donc, si on ne peut pas maudire Dieu, on doit dire pourquoi Dieu n'est pas coupable. Et si Dieu n'est pas coupable, c'est que c'est toi. Et je pense que nous, théologiens, je me tourne vers mes confrères, nous, théologiens, mais nous croyons, qui lisons de la théologie ou qui pensons théologiquement, on doit critiquer les systèmes qui expliquent à la place de Dieu. Et on a des multitudes de systèmes théologiques qui expliquent à la fin, qui expliquent mieux que Dieu pourrait nous le dire. Et je pense qu'il nous faut d'abord, et c'est ce qu'on fait un peu ce soir, nous mettre à l'écoute de l'Écriture pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et après, faire de la théologie. Rassurez-vous, on est en train de faire de la théologie. Voilà. Alors, maintenant, traçons, je regarde un peu l'heure. Traçons un peu rapidement l'itinéraire de Job. Je ne m'arrêterai pas, il faudrait lire et je vous inviterai à les lire. Je peux mettre à disposition ce PowerPoint si vous voulez d'ailleurs aussi. Job passe de l'accusation de Dieu à la troisième personne. Et là, il n'est pas loin des amis. Il parle à la place de Dieu et il accuse Dieu. C'est Dieu qui a volé mon droit. C'est lui le coupable. Puisque moi, je suis innocent et qu'il faut un coupable dans notre système théologique, si ce n'est pas moi, c'est lui. Et quelque part, on ne peut pas sortir cette accusation de l'équation. On a vu dans le prologue, le Satan, il est dominé par Dieu. Et Dieu accepte le défi que le Satan lui dit. Alors c'est métaphorique, mais ne disons pas trop vite une catastrophe, Dieu ne l'a pas voulu. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que Dieu m'a dit qu'il ne l'a pas voulu? Alors oui, Dieu, il est bon, il ne peut pas penser le mal, il ne peut pas vouloir le mal. Ah oui, mais qu'est-ce que Dieu dit? Bon. Mais alors, à la troisième personne, on reste dans les systèmes théologiques. Hein. On parle à la place de Dieu. Et surtout, on le tient loin. Parce que... Et Job, progressivement, et c'est ça qui est sublime, Job tutoie Dieu. C'est-à-dire, il lui parle directement. Mais derrière ce tutoyer, il lui dit le même discours, mais il l'adresse à Dieu. Il lui dit sa souffrance. Il lui dit son incompréhension. Lisons ça au chapitre 13. Moi, c'est au puissant que je veux parler, c'est contre Dieu que je veux récriminer. Donc, il demande Job de pouvoir paraître devant Dieu et dire à Dieu tout ce qu'il a contre lui. Et ce qu'il lui dit, c'est « Pourquoi caches-tu ta face et me considères-tu comme mon ennemi ?» Et puis au chapitre 7, là, il y a d'autres références. Chapitre 7, il lui dit ceci. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses cas, que tu fixes sur lui ton attention, tu l'inspectes chaque matin, tu le scrutes à tout instant ?» Ne peux-tu pas cesser de me regarder le temps que j'avale ma salive? Si j'ai péché, en quoi t'ai-je offensé? Toi, le gardien de l'homme. Vous vous souvenez, le Satan disait, il t'a protégé. Mais en fait, Job fait cette expérience paradoxale que Dieu l'écrase et en même temps, il est éloigné, il se tait. Et peut-être dans nos itinéraires de foi, on peut avoir cette expérience paradoxale. Dieu se tait, ça c'est notre expérience courante. Mais quand on est dans la souffrance, on peut avoir l'impression que Dieu, il nous écrase. Quoi. Voilà, je passe cette... Et dans cet itinéraire, où parfois il le tutoie, parfois il l'accuse, parfois il arrive progressivement, mais aussi de manière non linéaire, même si au fur et à mesure ses prises de conscience sont de plus en plus précises, et ici on est proche du mystère pascal aussi déjà, il a des traits d'espérance qui apparaissent progressivement en Job. Et la conscience qu'il n'est pas seul en face de Dieu. D'abord, il en exprime sous forme de besoin. Il a besoin d'un arbitre, chapitre 9, verset 32, d'un arbitre entre nous. Il dit à Dieu, il faut un arbitre entre nous qui pose la main sur nous deux. Un arbitre, c'est un juge. Quand les gens sont en conflit, dans la médiation, peut-être qu'on pourrait faire ça, mais dans l'Antiquité biblique, on faisait ça. Le juge mettait la main sur l'épaule de chacun pour les forcer à se réconcilier. Et il dit à Job, il dit à Dieu, il faut que quelqu'un mette la main sur chacun d'entre nous pour nous forcer à nous réconcilier. Puis après, il prend conscience, chapitre 16, qu'au fond, celui qui l'attend comme médiateur, il est au ciel. J'ai un témoin, c'est un médiateur, c'est un défenseur déjà. J'ai un témoin dans le ciel, et il poursuit plus loin, je vous passe une bonne partie des versets. Si Dieu pouvait être mon arbitre, en fait, je veux m'en prendre à Dieu, et le seul qui peut me défendre en face de Dieu, c'est Dieu. Et vous voyez, là on est dans, en fait, l'annonce profonde de l'avènement du Christ. Qui mieux, alors là je fais un saut qu'un bibliste ne devrait pas faire, mais on est presque dans la prédication, mais qui mieux que Dieu peut parler à Dieu? Mais en même temps, s'il est Dieu, il ne peut pas parler pour moi. Donc qui mieux qu'un homme peut parler à Dieu pour dire le problème de l'homme? On est dans l'annonce profonde de l'avènement du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Du médiateur. Et bon, dépose ta caution, et là, chapitre 19, c'est aussi vraiment sublime. Moi, je sais, alors là, c'est de l'ordre de la foi, que mon rédempteur, c'est le Goël, c'est le défenseur, je passe sur les mots, il faudrait faire l'exégèse, mais vous saisissez l'idée, que mon défenseur est vivant, et que le dernier, alors, ça veut dire quoi? C'est le dernier à se lever ou c'est après? Il y a un double sens. Il se lèvera. Alors se lever, c'est bon, l'idée de la résurrection, mais ici c'est surtout l'idée du jugement. Le défenseur, pour plaider, hein, il se lève pour plaider. Et donc, je sais que le vivant, parce que c'est un titre, le vivant c'est un titre autant que quelqu'un qui serait vivant, vous voyez, le vivant va se lever en face de Dieu pour plaider ma cause. Et c'est qui le vivant? C'est qui le vivant qui se lève en face de Dieu? Ben, c'est Dieu lui-même, quoi. Et quand bien même on m'arracherait ma peau de ma chair, alors est-ce que c'est après ma chair ou est-ce que c'est dans ma chair? Les lectures en grec de la Septante et du Nouveau Testament voit ici l'idée de la résurrection, et même la Vulgate parle de la résurrection, mais dans l'hébreu on peut avoir l'idée dans ma chair, mais ça veut dire dans ma chair meurtrie, dans ma chair souffrante, je verrai Dieu. C'est-à-dire, on peut avoir l'idée d'un après, mais l'hébreu nous invite aussi à considérer le maintenant. Et je pense qu'il faut tenir ces deux. Il y a la possibilité, dans la souffrance, de faire l'expérience de Dieu. Et je dirais même que c'est le lieu privilégié de la rencontre de Dieu. Alors, pas une souffrance qu'on s'applique, hein. Notre réalité, la réalité de notre condition. C'est là que nous sommes appelés à rencontrer Dieu. Et c'est ce qu'on va dire dans la suite. Mais cette espérance, vous voyez, on passe du chapitre 9 au chapitre 13, au chapitre 17 et au chapitre 19. Ben, entre deux, bon, il y a les amis qui lui tapent sur la figure, et puis il y a sa désespérance qui revient, quoi. C'est pas... Alors, la conscience a quelque chose de linéaire, La conscience est de plus en plus précise jusqu'à avoir conscience que c'est le vivant lui-même qui prendra ma déférence auprès de Dieu et que je peux le rencontrer. Mais après, suit ces moments de lucidité, des moments d'angoisse terrible. Et ça, ça rejoint bien la situation des souffrants et peut-être la nôtre. Alors, la réponse de Dieu et la réaction de Job, vous tenez ?
Oui.
Lisons le tout début du premier. Alors, j'ai dit ici, comme il y a eu deux vagues de drames sur Job, comme il y a eu deux premières réactions de Job, il y a deux discours de Dieu et deux réactions de Job au discours de Dieu. Vous voyez, c'est très construit. Et le premier discours de Job, de Dieu, commence comme ceci. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête. Alors là, d'abord, il faut faire voir que dans ce récit métaphorique, Dieu répond à Job. Dans notre existence, il n'en est pas toujours comme ça. Et dans la plupart de nos existences, il n'en est pas comme ça. Donc là encore, ne prenons pas ça comme un exemple en disant ben, « moi, Dieu, il ne me répond pas ». Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon. Et Job, alors Dieu, alors attendez-vous à ce que ça décoiffe, quoi, ça déplace. « Quel est celui qui obscurcit mes plans ?» Il dit à Job, hein, « tu obscurcis mes plans ». Par des propos dénués de sens. Il est violent. Il sera encore plus violent avec les amis. Saint terrain, je vais t'interroger, tu m'instruiras. Verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Indique-le si tu possèdes la science. Qui a fixé les mesures ? Les mesures comme un architecte. Le sais-tu ? Qui sur elle a tendu le cordeau comme le maçon ? Sur quoi ces bases furent-elles appuyées ? Et qui posa la pierre angulaire, tandis que chantaient ensemble les étoiles du matin et que tous les fils de Dieu criaient l'allégresse, etc., etc. Vous voyez le type de question. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ? Job est décentré. Il est déplacé en faisant face à une quadruple limite. La limite spatiale. Il ne peut pas atteindre le sommet de l'univers et descendre au fond de la matière, on pourrait dire aujourd'hui. Temporel, il ne peut pas rejoindre l'origine ni la fin. Et limite du savoir. Le sais-tu, en as la science. En as-tu la science, demande Dieu. Et du pouvoir. As-tu placé, toi, les astres du ciel ? Quadruple limite humaine. Et ça dit quelque chose théologiquement très profond. La réponse à certaines de nos questions, la quête de sens, court le risque de prendre la place de Dieu. On l'a déjà dit. Et donc, d'entraîner Dieu dans la finitude, de le réduire à notre compréhension. Et c'est le risque de nos théologies. Nos théologies et de nos philosophies, hein, peut-être encore plus que nos théologies, mais risque de ramener à la mesure de notre rationalité humaine des problèmes qui en réalité, et des questions qui en réalité, outrepassent, dépassent démesurément notre capacité de connaissance. Et c'est le contenu de la réponse de Dieu. Et cette réponse de Dieu, alors ça c'est mes mots à moi, font passer de notre mini-compréhension humaine, c'est ce que j'appelle le microcosme anthropocentré, c'est-à-dire centré sur l'homme, ce qu'on peut en comprendre, à une réalité démesurément plus grande parce qu'elle a la mesure de Dieu. Donc un macrocosme, c'est, si vous voyez, la fresque de ce discours de Dieu qui reprend tout l'univers, c'est un macrocosme, un cosmos gigantesque, inaccessible, mais qui est centré sur Dieu, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur et le maître. Et je crois que ça, c'est un décentrement que nous avons à faire dans nos questions existentielles. Passer de la compréhension limitée que nous pouvons en avoir à ce que Dieu pourrait en dire. Mais nous n'en savons rien. Et justement, c'est la réaction de Job. « Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je répliquer ? Je mets la main devant ma bouche. Vous voyez le magnifique tableau de Chagall où Job met la main devant sa bouche. Je n'ai pas commenté les peintures que j'ai mises, mais elles ont parlé, j'espère, d'elles-mêmes. Je mets ma main devant ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Au fond, la rencontre de Dieu, parce qu'on est dans un dialogue, hein, mais dans notre prière aussi, la rencontre de Dieu et la perception devant Dieu qui est le tout autre de notre limite, de notre démesure, plonge dans le silence. Et ce silence, il est le silence de la foi, qui répond au silence de Dieu parfois, mais c'est un silence que nous devons parfois imposer à notre discours rationnel intérieur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, moi, je me suis réveillé la nuit, et puis ça commence à se tourner, quoi. J'ai mes pensées qui refont les discours de la journée précédente et qui préparent les discours de la journée suivante, qui lèvent les problèmes administratifs du centre que je dirige, des collègues, des étudiants, des machins, de l'église, de l'évêque, du pape, non, parce qu'il est un peu loin, mais de l'évêque beaucoup. Voilà. Eh bien, il faut imposer le silence à son discours intérieur, mais aussi à son discours théologique intérieur. C'est ce que la théologie appelle l'apophatisme. À un moment donné, le théologien, et j'en suis convaincu, le théologien doit se taire, et le croyant doit se taire. Pas se taire en face du vide et en face d'une feuille vide en disant « je ne sais plus rien, quoi, je ne sais plus que dire », mais se taire en face du mystère. J'avais un professeur de théologie que vous n'avez pas connu, mes jeunes, mais à l'université de Fribourg, qui disait dans son cours de théologie, c'était le père Torel, vous avez entendu au moins son nom, certains, qui disait « Ici, le théologien se met à genoux ». C'était vrai. J'ai toujours regretté de me demander pourquoi il restait debout quand il disait ça. Parce qu'il aurait dû le faire dans la salle de classe de l'université, se mettre à genoux, quoi. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas traduit dans son geste ce qu'il avait dans sa tête. Donc il était quand même dans du cérébral. Donc, le théologien se met à genoux. Le Christ est là, la croix est là. Voilà. Il faut suspendre. Le théologien doit se taire. Non pas parce que ce qu'il dirait n'a pas de sens, non pas parce que la réalité de Dieu est un non-sens, mais parce que c'est un sens au-delà de ma capacité à définir le sens. C'est un surcroît de sens. Dans la rencontre de Dieu surgit un surcroît de sens qui suspend même notre question, même la question de la souffrance de Job. Deuxième réponse de Dieu, il faut que j'aille un peu plus vite, mais voilà, vous êtes patient. Job est placé devant des réalités qu'il ne peut pas maîtriser. Je lis très vite. « Voici donc, c'est le deuxième discours de Dieu, Béhémoth, je l'ai fait tout comme toi. » Béhémoth, c'est un être imaginaire, réel, monstrueux. Vous avez au verset 25, Léviathan, le Léviathan, ce serait le monstre du Loch Ness. Voilà, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on ne l'a pas vu. C'est ce que notre imaginaire ne peut même pas se représenter. Les forces qui dans le monde normal, paranormal, anormal, prêté naturel ou je ne sais pas quoi, que nous ne maîtrisons pas, quoi. Voilà, le Léviathan, vas-tu le pêcher à l'hameçon, lui serrer la langue avec une corde, lui pêcheras-tu un jonc dans les naseaux? Alors, il y a un exégète qui a écrit un livre assez beau sur tous les animaux qui sont représentés dans le livre de Job et les animaux imaginaires. Voilà. Alors, et Job est placé devant des réalités qu'il ne peut même pas imaginer, des monstres marins inimaginables qu'il ne peut pas maîtriser. C'est aussi le monde de nos fantasmes intérieurs, de nos angoisses intérieures, de nos peurs, le monde de notre psychologique, de notre surmoi, de notre inframoi, je ne sais pas. Hein, voilà. Et ça dépasse nos catégories. Donc, ça achève, le mystère de Dieu achève le décentrement radical de Job. Voilà. Et donc, toute philosophie, toute théologie est contrainte au silence, pas devant le vide, mais devant la présence de Dieu. Alors la réaction de Job est celle-ci. « Je sais que tu peux tout, et nul projet pour toi n'est impossible. » Après vient un dialogue, je passe un peu. Je prends les deux dernières phrases. « C'est par ouï dire que je te connaissais. » L'ouï dire, c'est quoi? C'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nos parents nous ont raconté, c'est la foi que nous avons reçue de nos parents, c'est le catéchisme que nous avons appris ou dont nous avons fait l'expérience, c'est la théologie que nous avons appris, c'est la tradition qui nous est transmise, qui nous donne une vraie connaissance de Dieu. Par ouï dire, je te connaissais, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi, voilà, il faudra comprendre, je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Trois découvertes existentielles. La toute-puissance de Dieu est la première découverte. Dieu est le tout autre. Dieu maîtrise tout. Dieu maîtrise tout, j'en ai la conviction, y compris le mal qui nous fait souffrir. Il en est le maître. Pourquoi j'en souffre? Pourquoi il s'abat sur nous? Là, j'arrive pas à le comprendre. Donc, la toute-puissance de Dieu, le non-savoir de l'homme. Alors, vous allez dire, ça rejoint bien ce que disaient les amis de Job. Ben oui, il y a quelque chose de juste. Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans ce qu'il est et la providence dans ses contours. Les merveilles qui me dépassent. Donc, elles ne peuvent être saisies par la raison humaine. Entendez bien, je ne suis pas non plus, parce que je suis aussi un universitaire à la base, j'ai deux trépieds, mais j'ai le trépied dans l'expérience religieuse profonde aussi. Je ne suis pas un sceptique de la rationalité. Je ne suis pas un sceptique du travail intellectuel. Mais je pense que devant Dieu, notre travail intellectuel doit se taire à un moment donné. Mais un Dieu à qui je m'adresse, un Dieu vivant, un Dieu que je cherche dans ma vie et dans mon existence. Voilà. Et ça ouvre un autre type de dialogue que le dialogue discursif du discours où je lui dis, où il me dit, où je lui réponds. Voilà. C'est pas de l'ordre du discours, mais de l'ordre d'une relation. Troisième découverte, c'est la rencontre personnelle de Dieu. Je te connaissais par ouï dire, donc par le discours, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc le tout autre se donne lui-même. Dieu seul suffit. Solo Dios basta, disait Thérèse d'Avila. Et ça implique une attitude. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Ça veut dire quoi? Je me rétracte. Ça ne veut pas dire je retire tout ce que j'ai dit. Ça veut dire je me convertis. Je transforme ma posture dans mon rapport au monde, dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport au Dieu. Et je me repens. Ça ne veut pas dire j'ai péché, tout ce que j'ai dit c'est des bêtises. Non, ça veut dire littéralement je me liquéfie. Je m'abîme, donc dans les abysses, dans l'eau. Ça veut dire, c'est pas une reconnaissance de culpabilité, mais c'est l'idée de lâcher prise. C'est l'idée d'accepter que seule la présence de Dieu peut combler mon questionnement, et pas une réponse rationnelle. C'est Dieu qui me comble, et pas la réponse à mes questions, fût-elle la question de la souffrance. Et où est-ce que je me rétracte et me repens? Sur la poussière et sur la cendre, c'est-à-dire ma condition humaine, ma vulnérabilité blessée par la souffrance que je subis. Il n'y a pas d'autre lieu pour rencontrer Dieu que le réel de notre existence. Dans ses beautés, mais aussi dans ses misères. Dans ses joies, dans ses souffrances. Et je dirais même, parce que ça, Job ne le dit pas, dans notre péché. Et ça, la séquence pascale le dit. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Bienheureuse faute qui fait qu'on cherche la présence de Dieu. Voilà. L'épilogue, vous avez encore le courage de quelques minutes ou pas? Je me tourne. Oui? Ceux qui l'ont pas, endormez-vous. L'épilogue court pour les exégètes, vous voyez, on est sur une ligne exégétique difficile à interpréter parfois, hein, dans toute l'interprétation que je vous donne là est une interprétation scientifique, peut-être débattue par certains, mais absolument scientifique. Vraiment sur l'hébreu, voilà. Et partagé par la grande majorité des exégètes quand même. Mais attention dans le prologue, l'épilogue, quand on le lit, de ne pas retomber dans... Finalement, il est restitué dans tous ses biens. Il aura encore plus de biens qu'avant, ce qui est vrai. Mais il faut lire le début et comprendre. Or, après avoir adressé ses discours à Job, le Seigneur dit à Éliphaz de Théman, hein, vous savez, c'est un des amis, « Ma colère s'enflamme contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé... » C'est les théologiens, hein, entendez bien. Vous n'avez pas parlé de moi avec justesse comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, prenez 7 taureaux, 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, offrez un holocauste en votre faveur et Job intercédera pour vous. Là, on est le sommet de l'acte de foi, on va le dire. Uniquement par égard pour lui, je ne vous infligerai pas l'infamie méritée, etc., etc. Verset 10, le Seigneur rétablit la condition de Job tandis qu'il intercédait pour son prochain. Le Seigneur porta au double tous ses liens. Et puis après, il y a la restauration. Tandis au moment même où il intercédait. C'est crucial. Le discours de Dieu... Le discours sur Dieu, le discours théologique, est disqualifié par Dieu lui-même. Nul n'a parlé aussi bien de moi que mon serviteur Job. Hein, on a lu ça. Vous n'avez pas parlé de moi avec justesse. Troisième ligne. Le discours des amis est disqualifié au profit d'une parole adressée à Dieu. Et Job devient l'intercesseur. Et c'est parce qu'il est l'intercesseur. L'intercesseur, c'est quoi? C'est celui qui s'adresse à Dieu dans un dialogue, qui dit « tu » à Dieu pour les autres. Pour celui qui peut-être ne peut pas s'adresser à Dieu. Eh bien, celui que je rencontre, qui souffre, je peux dire à Dieu « pourquoi tu le fais souffrir ?» Et ça, je suis intercesseur. Je peux prier pour lui, je peux dire « Seigneur, viens l'aider ». Mais si je veux être fidèle à sa prière, je veux dire, quand on rencontre quelqu'un qui dit « je suis révolté contre Dieu », bon, moi, je lui dirais bah, « dis-lui ta révolte ». Puis s'il me dit « je ne peux pas lui parler », je vais peut-être lui dire « est-ce que tu acceptes que je dise à Dieu ta révolte ?» Dieu, pourquoi tu t'en prends à mon frère ou ma sœur. Et je crois que ça, c'est audible par ceux qui ne peuvent pas s'adresser à Dieu. Et c'est ça l'intercesseur. C'est adresser à Dieu le cri de l'homme. Et c'est seulement là que Job est restitué dans son intégrité. Conclusion. On a été au marathon. La foi de Job est celle du chrétien souffrant. D'abord, on l'a dit, c'est un itinéraire de foi. Un itinéraire qui n'est pas linéaire, qui est appelé à s'approfondir, mais qui a des hauts, des bas, et qui a des révoltes, qui a des moments où je peux m'adresser à Dieu, des moments où j'arrive plus à m'adresser à Dieu. Voilà. Et qui traverse l'histoire de notre chair blessée. Cet itinéraire passe, j'ai mis parfois parce que je suis prudent, mais je pense qu'il passe souvent, pour nos contemporains, peut-être pas pour nous qui sommes, qui, qui avons baigné, je sais pas. Moi, c'est avec l'âge que je commence à me révolter avec Dieu. Quand j'étais jeune, je me révoltais pas trop contre Dieu, mais plus je mûris, je vieillis pas encore, j'ai pas encore votre sagesse, mais voilà. Mais ce chemin passe parfois par la révolte. Et le livre de Job légitimise la révolte, pour autant qu'elle soit, comme on dit en théologie, coram Deo, adressée à Dieu, en face de Dieu. Je te parie, disait le Satan, qu'il te maudira en face. Mais maudire Dieu en face, le lui dire, c'est le bénir. J'en suis convaincu. Maudire Dieu, pas en face, alors ça c'est une malédiction. Mais bénir Dieu, pas en face, en le sauvant, parce qu'il aurait besoin que notre discours théologique préserve la sainteté de Dieu, voire la sainteté des sacrements, voire la sainteté de l'Église contre tous les abus, on préserve la sainteté de l'Église, c'est une malédiction. Et là, alors je ne pensais pas ouvrir ça, mais je ne peux pas ne pas ouvrir ça, la crise des violences sexuelles en milieu d'église et le discours ecclésial sur, pendant longtemps sur ces abus est le sommet de la malédiction perverse du discours théologique. Alors, Dieu merci, et je suis dans l'église, je suis diacre de l'église catholique et je le reste, mais Dieu merci, on essaye de changer ça. Je l'ai dit, mais voilà. Et là, voilà, ça c'est le système théologique qui a voulu s'expliquer. Hein. Voilà. Je ne dirai pas plus. Voilà. Voilà. Dans le cri, pour autant qu'il est adressé à Dieu, alors des fois, on s'adresse à Dieu, mais on a l'impression de ne pas le trouver. Mais si on ne désespère pas de continuer à nous adresser à lui, alors qu'on a l'impression qu'il se tait, eh bien, pourra peut-être, dans notre itinéraire, enfin j'en ai la conviction, j'en ai la foi, apparaître la perception, alors comment, l'espérance au moins de sa présence au cœur même de notre existence, dans notre condition blessée, dans la poussière et dans la cendre. On avait ça dans le chapitre 19 et on avait ça à la fin aussi. Parce que c'est notre existence qui est le lieu même où nous pouvons rencontrer Dieu, et le mystère de la souffrance. Et là, on est au cœur du mystère pascal. Dans le sommet de l'ignominie, qu'est la passion, dans l'abus que subit, il y a même des exégètes qui soutiennent, je ne pensais pas le dire non plus, mais je pense que je vais le dire quand même, puisque j'ai manifesté, j'ai parlé de la violence sexuelle en cadre ecclésial, mais la violence sexuelle en tout cadre, hein, familial, sportif, éducatif, avec des mineurs, avec des adultes, avec et le drame abominable, et des actes abominables, des exégètes soutiennent, et je fais partie d'eux, que le récit de la passion indique que le Christ aurait pu être abusé sexuellement. Le récit évangélique parle des... Ouais, j'ouvre un autre champ, mais on y est. Hein. Le récit évangélique parle de la passion quand il est avec les gardes, où il est dit « Ils s'amusèrent de lui » et ils lui mettent une couronne, etc. « Ils s'amusèrent de lui ». Si on va dans l'Ancien Testament, c'est notre collègue et notre frère Philippe Lefebvre qui le dit, mais ce n'est pas le seul. Hein. Le verbe « s'amuser de lui », on retrouve entre autres, si je ne m'abuse, dans le livre des Juges, où on parle d'un viol collectif sur une femme, et le verbe utilisé, c'est « ils s'amusèrent d'elle ». Et là, il n'y a aucun doute sur le type de violence que suppose cet amusement. Et ces exégètes, et j'en fais partie, pensent que l'allusion ouvre au moins la possibilité. Et c'est pas étonnant, parce que la violence sexuelle traverse malheureusement, et on la trouve dans l'Écriture, hein, traverse l'histoire de l'humanité comme une arme de guerre, Et le Christ, ce qui n'est pas assumé, n'est pas sauvé. Il va jusque-là. En tout cas, notre lecture moderne doit nous le rendre possible, et je le crois profondément. Et la mort sur la croix, c'est le sommet de la violence physique et de la torture physique. Bon, voilà. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et ça nous dit ce que dit le livre de Job. J'ai un défenseur qui connaît le profond de la souffrance humaine et qui peut la dire à Dieu. Et c'est l'intercesseur par excellence, c'est le Christ mort en croix. Donc vivons la passion aussi dans cette perspective-là. Voilà. Et après, ça c'est pour nous, les théologiens, les prédicateurs. Attention aux prédicateurs, j'en fais partie aussi. Peut-être qu'il faut garder le silence aussi parfois. Quand je disais la théologie, c'est aussi parfois nos prédications. Je ne vous dirai pas ce que je pense de prédication, mais pas de ce que vous, les prédicateurs que vous avez dans la région, mais de ce que j'entends parfois, de ce que j'en pense. Mais voilà. Il nous faut parfois garder le silence. J'en perds la voix, vous voyez, quand je dis ça, j'en perds la voix. Parce que Dieu seul suffit. Et le sommet de la parole théologique, c'est celle de l'intercession.